Bonjour et bienvenue sur le Mouton à 5 pattes, le podcast qui vous présente le recrutement sous forme de rencontres, d'histoires insolites et d'interventions d'experts. Le Mouton à 5 pattes, animé par moi-même, Stéphanie Renier, cofondatrice de Gentis Recrutement, s'adresse aux recruteurs, aux candidats à la recherche d'un emploi, ainsi qu'à toutes les personnes évoluant dans le monde des ressources humaines, ou encore aux managers qui rencontrent des difficultés à trouver leur mouton à 5 pattes. Bonjour à tous et bienvenue dans le Mouton à 5 pattes. Aujourd'hui, je reçois la talentueuse et renommée dans toute la Belgique, Leïla Meidan. Leïla, coucou.
Ah.
Applause.
Coucou Stéphanie.
Bienvenue dans le Mouton à 5 pattes. Alors Leïla, aujourd'hui, on va tacler un sujet très important qui est le sujet des compétences, l'importance des compétences et aussi de se réinventer dans les formations de celles-ci. Avant d'attaquer directement le sujet, on va d'abord évidemment te présenter pour le peu de personnes qui ne te connaissent pas. Leïla, tout d'abord, tu as un bachelor à la London Metropolitan University en finance et business international.
Indeed.
Ok. Tu es la fondatrice de Femmes Fières. La fondatrice aussi, via Femmes Fières aussi du Sochi Festival. Très, très sympa d'ailleurs. Je t'ai connue lors de la création de Be Greater. Et maintenant, donc, Interskillar. Leïla, est-ce que j'ai tout dit ou est-ce que j'ai oublié quelque chose?
Non, c'est un super résumé.
Avec un beau petit chat aussi.
Avec un très beau petit chat que je mets en avant de temps en temps, effectivement, qui me rend la vie un peu plus agréable tous les jours.
Je comprends. tout d'abord, Leïla, qu'est-ce que c'est Interskillar?
Alors, Interskillar, c'est une plateforme de développement professionnel à destination des jeunes. Cette plateforme a pour ambition de faciliter justement la transition entre l'éducation et l'emploi et faire en sorte de permettre aux jeunes de mieux naviguer dans les prémices en fait, de leur carrière. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui décident dessus des parcours un peu différents de ce qu'on connaît d'habitude. Mm-hmm. Mais malheureusement, les entreprises ne sont pas toujours équipées à déceler ces talents qui n'ont pas ce profil habituel, qui ne cochent pas toutes les cases. Donc ces cases, ça peut être le bon genre pour la bonne position. Hein. On sait très bien qu'il y a encore des fois des petites billets qui viennent amputer sur la projection qu'on va faire d'un rôle envers une personne. Ça peut être le manque de diplôme, ça peut être l'âge, ça peut être un handicap X ou Y. Donc il y a encore quand même des éléments qui existent qui font que certains talents vont avoir plus de difficultés à trouver un emploi malgré leurs compétences.
Ok, et du coup, quand ils accèdent à Interskillar, à la plateforme, comment ça se passe?
Alors, tu t'inscris, tu passes différents tests.
Okay.
Tu as après des résultats de ces tests qui te donnent une meilleure visibilité en fait sur tes forces, sur des points d'amélioration, sur tes passeports un peu de talent et donc les métiers qui pourraient t'épanouir, qui correspondraient à tes ambitions, à ta personnalité, à tes motivations, au secteur qui t'intéresse, etc. Okay. etc. Tu as une boîte à outils qui t'est aussi mise à disposition avec différents tips, différents conseils, que ce soit en formation, en projet, en networking. Pour une interview, quel type de questions tu pourrais poser aussi aux recruteurs. Enfin bref, il y a différents tips. Il y a un programme de mentoring qu'on met en place. Et ce programme de mentoring va permettre justement aux différents talents de venir, tester le métier qui les intéresserait, et de deux, on viendrait appuyer leurs compétences pour venir vraiment valider ces compétences et remplacer petit à petit le diplôme. Parce qu'aujourd'hui, le diplôme, quand tu interroges le nombre d'entreprises, il sert principalement à rassurer l'entreprise. Parce qu'avec tous les changements dans les métiers, c'est un peu compliqué aujourd'hui de faire vraiment le suivi de quel métier demande quoi, et donc le diplôme va venir rassurer un peu le recruteur dans ses démarches. Et nous, on va venir justement utiliser une autre porte que celle du diplôme, parce que malheureusement, il n'y a pas tout le monde qui peut rentrer par cette porte-là. Non. Et grâce aux recommandations de ces mentors qui émanent de différentes grandes entreprises, on espère pouvoir venir rebalancer et rassurer l'entreprise avec ces recommandations.
Ok, génial. Aujourd'hui, tu comptes comme ça plus ou moins combien de mentors?
Pour l'instant, on a une première base de 10 mentors avec lesquels on commence ce programme, avec lesquels on le met en place. Donc c'est vraiment une volonté pour nous de co-créer ce programme. Et on est déjà en relation avec différentes entreprises, dont je vais citer Agoria, parce que j'ai la chance de pouvoir être dans le comité de direction d'Agoria Brussels aussi. Agoria a des young professionals. Mm-hmm. Et nous, le mentoring, c'est une volonté de pouvoir aussi faire du mentoring par les jeunes, pour les jeunes. Et donc d'avoir vraiment des jeunes qui viennent d'entrer le marché de l'emploi, qui ont quelques années d'expérience, qu'on peut vraiment ouvrir un peu les portes les portes de l'expertise à ces jeunes en recherche d'emploi. Donc aujourd'hui, 10 mentors, mais déjà en relation avec pas mal d'entreprises qui seraient intéressées de pouvoir inclure ce programme de manière transversale dans leur boîte.
Ok, ce sont des personnes, ce sont des profils, je vais dire, de tous les secteurs. Ça peut être n'importe qui peut s'inscrire sur la plateforme, ou alors il faut quand même avoir, je ne sais pas moi, une appétence pour l'IT.
Non, il n'y a pas de focus sectoriel. Tu as un focus sur le métier d'avenir et le métier prometteur. Donc, il y a deux focus qu'on fait. Premier focus, ce sont des métiers qui ne demandent pas justement de diplôme. Je pense par exemple à ingénieur électromécanique.
Okay.
C'est vrai que tu veux devenir ingénieur, il va falloir que tu aies un bachelier au minimum, si pas un master et plus. Et donc, ce n'est pas le type de job qu'on va directement targeter.
Oui.
Parce que c'est malheureusement pas là où on peut venir jouer sur la recommandation, c'est pas suffisant. Et j'ai oublié ta question.
Donc tous les secteurs, métier d'avenir et métier
Et souvent, n'importe qui en mentor. Donc pour les jeunes, c'est vrai que n'importe qui peut avoir accès à cette plateforme. C'est gratuit, c'est disponible sur le web. Donc c'est une web app qui est gratuite pour tout le monde. Par contre, pour les mentors, on a un processus de validation qui nous permet de pouvoir justement valider l'expertise. On aimerait bien travailler avec les entreprises, parce que c'est plus facile pour nous de pouvoir gérer directement avec une entité et eux peuvent sensibiliser au niveau de leurs employés. C'est plus simple pour nous au niveau de l'expertise aussi, de la validation d'expertise. Et donc ça, c'est un peu l'objectif, c'est de pouvoir plutôt brasser large, mais avec de toute façon une validation au niveau des mentors qui rejoignent le programme.
Ok, et d'où t'es venue cette idée en fait ?
Mon expérience personnelle. En gros, je pars en Angleterre, donc je fais Solvay d'abord avant de partir en Angleterre.
Ok.
Je fais 3 mois de Solvay. Je fouille le plus loin possible. Et donc, je fouille en Angleterre dans la London Metropolitan Business School. Et en rentrant, je me dis très fièrement, ça va depuis. Donc, je suis revenue, je crois, genre 24, 25 ans. Je commence à bosser à 14 ans. Donc, je me dis, oh, tiens, ça fait quand même 10 ans que je bosse. J'ai un bon petit bagage. J'ai mon beau diplôme de la London Met. Vas-y, rien ne m'arrête. Et ben, tout m'a stoppé, en fait. Et donc, après des centaines d'envois de CV, zéro feedback, tu sais, tu te sens vraiment, désolé du terme, comme une grosse merde, en disant, en fait, tu ne sers à rien, tu ne sais rien faire. Et puis, je me suis dit, attends, il y a peut-être une possibilité de revoir un peu ce qui se passe. Est-ce que vraiment, c'est moi qui ai un souci, mon CV est vraiment aussi nul, ou bien est-ce que mon CV n'arrive pas à passer les bonnes portes? Et en fait, j'ai utilisé un autre canal qui était le canal de mon réseau, où j'ai contacté une personne de mon réseau, je lui ai demandé d'envoyer mon CV à son ancien manager. Et directement, il l'a fait, j'ai eu une interview et j'ai eu le job. Et là, je me suis dit, attends, via un premier canal, les job boards, LinkedIn, etc., sans CV, zéro réponse, un autre canal, un envoi de CV, une interview, un job. Et donc là, je me suis dit, ok, il y a quelque chose à faire. Et donc, c'est là où j'ai eu l'envie de pouvoir justement revoir un peu ces références de compétences, revoir comment les entreprises traitent ces compétences et travailler sur du mentoring.
Ok, alors, je vais d'abord revenir un peu en arrière. Tu dis que tu as fui Solvay. Pourquoi ?
Parce que j'avais envie de pouvoir toucher directement en fait le sujet qui m'intéressait, c'était le business. Je faisais ingénieur de gestion, ingénieur commercial. T'as envie de pouvoir apprendre à faire du commerce, quoi, à négocier, à comprendre en fait le business, que ce soit au niveau national ou international. Et à Solvay, concrètement, tu touches pas au business avant la troisième année. Et donc, je me suis dit, est-ce que vraiment j'ai la patience? Non, je ne suis pas quelqu'un de patient. Ceux qui me connaissent et celles qui me connaissent le savent très bien. Donc, la patience d'attendre 3 ans, non. La pédagogie, apprendre par cœur, voilà, c'est un signe d'un type d'intelligence. Ce n'est pas la mienne, clairement. Je n'ai pas cette intelligence de retenir l'information par cœur. Ça ne m'intéresse pas, ça ne me cultive pas, ça ne me nourrit pas. J'y arrive pas. Et je me dis que dans le business, il faut d'abord comprendre un concept. C'est pas suffisant que de juste savoir le ressortir par cœur et passer mon temps à apprendre de la physique, de la chimie pendant des plombes et des plombes et des plombes et avoir 0 sur 20 parce que j'ai oublié une virgule. Je me suis dit non, ça va pas le faire. Et donc j'ai fui le plus loin possible.
Ok. Et du coup, à Londres, autre expérience ?
Autre expérience.
Moins de par cœur ?
Pas de par cœur.
Ok.
Pas de par cœur. Donc en fait déjà à Londres tu vas avoir 4 cours, donc 4 thématiques par semestre. Dans ces thématiques tu as des cours obligatoires, des cours que tu peux choisir. Donc ça aussi c'est une chose que tu peux vraiment moduler en fait ton bachelier à la demande. Donc ça c'est quand même assez cool. Tu vas avoir beaucoup de business case. Donc très très peu de théorie et directement de la pratique. Donc tu vas passer par exemple un cours de 3 heures sur la théorie. Alors, je prends bêtement l'offre et la demande en première année. Et directement, en fait, tu as des cas pratiques où on te met des entreprises existantes en Angleterre ou même des boîtes internationales. On te dit, voilà, analyse cette théorie sur base de ce cas-ci. Et tu dois vraiment comprendre la matière et te creuser. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Travailler sur ces différents business cases pendant ces 3 ans, j'ai adoré et j'ai vraiment pu intégrer les concepts d'une manière beaucoup plus durable, en fait.
Ok, génial. Du coup, on revient. Tu envoies une centaine de CV,
ouais.
Pas de résultat, et après tu donnes ton CV à une personne de ton réseau, et là tu vois que ça change tout.
Ouais.
Et c'est comme ça que tu vas avoir ton premier job. D'après toi, avec le recul et ton expérience actuelle, pourquoi tu n'as jamais reçu de réponse de tous ces CV envoyés ? Est-ce que tu envoyais ça au mauvais job ou aux mauvaises entreprises ?
Je pense que mon CV, j'avais pas les codes déjà. Donc, okay. j'avais pas les bons termes, parce que bon, on le sait aujourd'hui de nouveau, comme t'as beaucoup, beaucoup de CV qui sont envoyés, ben, ça fonctionne sur base de mots-clés aussi, bien pour sûr. Que ton CV puisse ressortir dans le processus de screening, donc mm-hmm. D'analyse. Donc, j'avais pas les bons codes, donc pas les bons mots, donc déjà, ça m'ampute. J'avais pas, je pense, le diplôme nécessaire dans les critères. Et puis, je pense effectivement que je n'ai pas envoyé directement aux bonnes entreprises pour le bon titre. Donc, j'ai brassé un peu trop large. Je n'ai pas été assez niche dans ce que je cherchais. Mais voilà, je pense qu'il y a différentes raisons qui ont fait que je n'ai pas su m'imposer. De nouveau, je pense que j'ai pas mal d'expérience, mais que mon expérience est très, très, très variée et que ce n'est pas facile de comprendre un parcours qui sort un peu de la norme. J'ai pas un parcours qui rentre dans la norme. J'ai fait de la compta, j'ai fait du recrutement, j'ai fait de la consultance IT depuis. J'ai fait 10 ans de service avant dans l'Oreca. Enfin, j'ai été vendeuse chez Bershka. Enfin, tu vois, j'ai fait une panoplie de trucs. J'étais prof de danse, j'ai ouvert un studio. Enfin, tu vois, à mon avis, en tant que recruteur, tu vois ça, tu te dis, mais qui est cette nana? Qu'est-ce qu'elle me veut? Je comprends pas ce qu'elle veut, ça va pas. Et donc, facilité, je pense, bah, tu mets sur le côté en te disant que tu auras un profil qui va directement te donner un déclic. Et oui, je pense que le déclic, tu l'as pas avec moi. Et il faut travailler, il faut arriver à comprendre. Et je pense que c'est dans ces profils comme ça aussi que tu peux trouver généralement des chouettes talents, parce que t'as des gens très débrouillards. Mais bon, ça, je savais pas me vendre, et vas-y, pour expliquer que t'es passé de l'Oreca à la compta, j'ai fait du nettoyage, je t'ai pas dit aussi, je fais du nettoyage aussi pendant un an, enfin, tu vois. Il faut prendre le temps et il faut se dire que, bah, en fin de compte, tu peux avoir une pépite entre les mains, mais il faut savoir comment, bah, dans quel job la mettre, comment la manager, et enfin, toutes ces questions qui émanent et qui sont pas faciles, je pense, pour les entreprises d'aborder.
Comment Interskillart t'aurait aidé à l'époque? Imaginons que Interskillart existait au moment où tu cherchais un job, comment ça aurait pu t'aider?
Je pense que j'aurais déjà pu mieux focaliser mes recherches d'emploi, parce que c'est vrai que je suis curieuse de beaucoup, beaucoup de choses, mais j'ai aucune passion. Je suis pas, j'ai une maman qui, depuis qu'elle s'est parlé, sait qu'elle veut être infirmière, tu vois. Okay. Moi, c'est un truc qui m'a jamais tapé à la tête. Enfin, non, j'ai jamais eu cette illumination un jour en me disant, ah, mais tiens, c'est ça que je veux faire. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, je sais que je fais ce que je fais, mais je sais que je veux faire autre chose dans 5 ou 10 ans. Enfin, voilà. Et donc, je pense que déjà de 1, ça m'aurait aidé à naviguer, à mieux comprendre le marché de l'emploi, parce que de nouveau à l'école, on ne t'apprend rien. Tu finis les secondaires, tu n'as pas vraiment d'informations sur les carrières, sur Actiris, on ne t'apprend absolument rien. La consultance, c'était un mot que je n'ai jamais entendu de ma vie, que ce soit en secondaire ou à l'université ou même dans mon entourage. Enfin, de nouveau, j'ai pas d'entourage qui avait des consultants, des experts en IT, des entrepreneurs. Donc, je pense déjà que pouvoir me donner les codes, me donner des tips et surtout me développer un réseau. De nouveau, je crois vraiment à la puissance du réseau. Tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui, c'est en grosse, grosse, grosse partie grâce à mon réseau qui m'a ouvert des portes. Et ça prend du temps et c'est difficile d'intégrer des réseaux quand tu n'as pas de porte d'entrée directe. Et donc, le fait de pouvoir créer un peu ces différents maillons de cette chaîne m'a permis d'arriver là où je suis aujourd'hui. Donc, pour différentes raisons, je pense que j'aurais pu profiter d'Interskillart. Alors, ce n'est pas encore développé aujourd'hui, mais c'est pour l'année prochaine. La partie mise en relation avec les entreprises aussi. Donc, vraiment, cette connexion entre les talents et les entreprises qu'on a développée dans quelques mois, avec de nouvelles bases, donc avec une base anonyme, donc une base beaucoup plus éthique aussi, où il n'y a pas ton nom, il n'y a aucun critère démographique qui vienne rentrer en compte, en fait, dans le processus de screening. Je pense que ça m'aurait aussi permis peut-être de pop-up de face au recruteur. Donc voilà, toutes ces petites choses.
Alors, de manière générale, aujourd'hui, quels seraient un peu les conseils que tu donnerais justement aux jeunes qui se lancent, aux personnes qui justement ont fait 1000 choses différentes, à tous les petits couteaux suisses sur cette planète, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil?
Déjà, de 1, inscrivez-vous sur Interskillart. On va commencer par là.
Publicité, alerte.
Ah bah écoute, à un moment donné. Donc déjà, de 1, inscrivez-vous. De 2, de manière plus sérieuse, même si inscrivez-vous, c'est quand même assez sérieux. Je pense qu'il y a le côté réseau d'office. Donc allez sur LinkedIn, connectez-vous, parlez aux gens. Essayez de rentrer en contact avec les êtres humains. Ne passez pas par LinkedIn Job ou par Stepstone. Allez discuter avec les gens directement, proposer d'aller boire un café, de comprendre le job et de faire en sorte de créer des relations aussi avec l'entreprise dans laquelle vous voulez travailler. Parce que je pense aujourd'hui que tu as quand même pas mal d'entreprises qui peuvent te correspondre ou pas du tout te correspondre. Mais si tu te lances un peu comme ça à la va-vite en te disant ben, « je veux trouver un job, peu importe le job », ça ne marche pas. Donc, essayez vraiment de pouvoir reprendre un peu de contrôle, je pense, sur la recherche d'emploi. Votre carrière ne dépend pas, en fait, de qui vous acceptera. Votre carrière dépend de là où vous voulez aller et là où vous pensez pouvoir exceller dans une boîte qui va vous donner les moyens d'exceller. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent. On pense que, en fait, en tant que chercheur d'emploi, tu dois accepter ce qu'on te donne ou tu n'as pas de contrôle, tu n'as pas de pouvoir. C'est pas vrai. Et je pense qu'il faut pouvoir rééquilibrer aussi ça et pouvoir poser des questions dans l'interview et que si en fait le job, l'équipe, la boîte, peu importe, tu ne la sens pas et tu n'y vas pas.
En fait, le problème, c'est que c'est vrai que c'est une discussion qu'on a régulièrement avec nos clients aussi. Le problème, c'est que beaucoup de candidats veulent absolument réussir un entretien. Ouais. Il y a vraiment cette notion de réussite et échec d'entretien qui fait qu'au final, ils ne réfléchissent pas au fait que en fait, la boîte ne pourrait pas leur convenir. La personne en face, peut-être que ne pourrait vraiment pas être un bon manager pour eux. Eux, avant tout, ils sont là pour la réussite versus l'échec de l'entretien. C'est très belge. Je suis entièrement d'accord. Mais on le voit encore trop souvent, même chez Gentis, quand on voit les candidats en recrutement interne. Tu as beau leur dire que c'est peut-être un environnement qui ne va pas les convenir, ils vont essayer de te prouver par A plus B que non, c'est quelque chose qui peut leur convenir. En fait, ils veulent se prouver absolument. Ouais. Et d'ailleurs, ce qu'on entend souvent en quête d'émission, c'est « Ouais, mais je voulais me challenger. Je voulais être sûre que ça ne me correspondait pas. » Alors, super.
Merci pour nous. Voilà.
Merci, donc tu t'es bien challengé. Nous, on a perdu 3 mois. Mais en gros, c'est un peu ça le problème. C'est qu'il y a vraiment cette notion de réussite et d'échec. Alors que pour moi, un entretien doit vraiment être une conversation un peu comme un date où tu te dis à la fin, ça ne matche pas des deux côtés. Non, il y a encore vraiment cette notion de réussite. Avant ça, tu mentionnais... Donc d'un côté... Attends, avant les entretiens, tu m'avais dit autre chose sur laquelle je voulais rebondir. Les réseaux. La puissance du réseau. Alors, il n'y a pas longtemps, on m'a demandé qu'est-ce que j'aurais changé dans ma carrière chez Gentis. Et ce que j'ai dit, justement, c'est que je n'ai jamais vraiment compris l'importance du réseau qu'au cours des 3 dernières années. Donc, pour te dire, il a vraiment fallu longtemps avant que je comprenne ça. Un junior, typiquement, quand je lui explique ça, la plupart me disent « mais j'ai pas de réseau. Ouais. J'en ai pas. » Donc, comment est-ce que tu résous, comment tu sors de cette conversation ou de ce cercle un peu vicieux, de la personne qui se dit « Oui, ok, LinkedIn, c'est bien, mais j'ai pas de réseau. Ok, envoyer des messages individuels, mais à qui j'ai pas de réseau. » Comment est-ce qu'ils peuvent, au fond, se construire un réseau?
On pense que c'est très compliqué, que le réseau, c'est en fait, ça passe par « il faut connaître le roi pour avoir un réseau ». Mais en fait, non. Enfin, tu vois, le réseau, ça commence par ta famille, ça commence par, par tes parents, par tes cousins, par tes frères, par tes sœurs. T'as pas de famille, ça commence par ton voisinage, ça commence par ton quartier, ça commence par tes anciens camarades de classe, par ton ancien boss ou ton ancien manager quand t'étais job étudiant, enfin quand tu avais un job étudiant, pardon. Donc, il y a un réseau. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte, en fait, de qui ils ont déjà autour d'eux et qu'est-ce qu'ils pourraient déjà activer autour d'eux. Tu sais, des fois, quand je fais un webinaire ou formation, je parle souvent de cette histoire de ce 6 degrés de séparation, où, en fait, tu connais tout le monde sur Terre avec simplement 6, enfin, grâce à 6 personnes autour de toi. Parce qu'en fait, la première personne que t'as dans ton entourage va connaître tout un réseau. Ces personnes-là vont avoir, elles aussi, leur réseau. Ces personnes-là vont avoir leur réseau. Et quand tu continues, et je suis certaine que moi, avec 3-4 personnes, en fait, je peux rencontrer Obama demain. Avec 3-4 personnes, peut-être juste une personne, je peux rencontrer le roi. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, ben en fait, qui n'est pas atteignable et par qui je pourrais passer, en fait, pour justement arriver à cette personne. Et c'est pas toi directement, c'est qui, entre toi et cette personne, existe ou qui tu pourrais activer pour arriver et te rapprocher de cette personne-là. Et donc, commencez déjà par juste vous poser la question de avec qui j'ai étudié, avec qui j'ai travaillé, avec qui je passe mes soirées. Et déjà, ça, c'est un réseau à activer. Et quand tu lances ton entreprise, par exemple, c'est quelque chose aussi dont on ne prend pas toujours conscience. On va pas aller activer notre réseau, on va avoir peur, tu vois, d'aller contacter nos proches en disant hey, tu veux pas me soutenir, tu veux pas liker, tu veux pas. Alors qu'en fin de compte, ça commence par là. Si déjà vos proches ne vous soutiennent pas, qui va vous soutenir?
Ouais. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a vraiment une pudeur par rapport à ça, parce que je te rejoins complètement. Mais l'entrepreneuriat, alors on ne va pas rentrer dans le débat aujourd'hui, l'entrepreneuriat en Belgique n'est pas forcément bien vu. Mmh. Et donc du coup, en tout cas, bon, maintenant il est de mieux en mieux vu, mais en tout cas, en quelques années, les gens te prenaient un peu pour un alien qui vraiment allait faire quelque chose de complètement fou. Et moi, j'ai plus, dans mon entourage, j'ai vu des gens très très bien intentionnés, mais essayer 1000 fois de me dissuader de faire tout ce que j'ai fait. Mm-hmm. J'ai eu plus de attention et de warning alert que d'encouragement.
Parce que je pense que les gens ont peur.
Oui, oui, et tout en bienveillance.
Et on vient de nouveau de cette culture un peu de réussite et d'échec, tu vois.
Exactement.
Et ça s'arrête là. Et donc si on arrive à pouvoir shifter un petit peu cette peur et amener un peu plus d'amour, de soutien, je pense qu'il y a toute une autre dynamique qu'on pourra avoir à Bruxelles et en Belgique.
Ça c'est sûr. Mais d'où l'avantage du réseau et que, effectivement, tout le monde a un réseau, tout le monde a 3-4 personnes qui connaît, qui pourraient connaître 3-4 autres personnes et boum, de postuler directement. les filières de formation alternatives. Donc aujourd'hui, on voit de plus en plus que même les jeunes n'ont plus forcément envie de suivre un cursus Solvay, universitaire. Il y en a beaucoup qui se dirigent vers d'autres types de formations. Déjà, à ton avis, pourquoi ?
Parce que je pense qu'il y a déjà de plus en plus d'offres alternatives.
Oui.
Et donc ça joue. Si tu n'avais pas d'offres alternatives, on n'aurait pas le choix que de continuer en fait. Enfin, moi, je n'avais pas différentes offres alternatives à l'époque quand j'ai commencé, enfin quand j'ai fait Solvay. Les offres, c'était soit, enfin dans ma tête en tout cas, dans ma tête, c'était échec, effect, Solvay en business.
Exact.
Je n'avais pas d'autres options. Mmh. Ou alors, je devais partir en Wallonie ou en région wallonne ou alors en région flamande. Donc à Bruxelles, déjà très limité. Donc, première chose, tu as déjà une plus grosse offre qui existe. Et deuxièmement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui voient, en fait, on n'est pas bête, quoi, on n'est pas dupe, tu vois que les formations et ce que tu vas apprendre, en fait, ne va pas être adapté nécessairement à ce que tu vas faire dans ton day-to-day, dans ton métier. Et donc, quand tu vois, en fait, une dissonance entre ce qu'on t'apprend et puis ce qu'on va te demander après en entreprise, ben, en fin de compte, est-ce que tu as vraiment envie de te dire, je vais quand même cravacher pendant 3 ans, parce que c'est quand même pas facile, c'est 3 ans minimum, pour, in fine, devoir quand même me former après ce cursus-là, parce qu'on va me dire, tu n'as pas l'expérience ou tu n'as pas les compétences nécessaires. Donc, je pense qu'il y a une dissonance. Et puis bon, en vrai, est-ce que c'est vraiment encore attractif de dire qu'on va rester 8 heures assis, enfin 8 heures par jour assis derrière un banc d'école, enfin et d'écouter, de gober en fait pendant 8 heures de la théorie. Non, je pense que c'est pas attractif. Depuis longtemps, il y a plein de gens en fait qui ont déjà été en décrochage scolaire, et ça, c'est pas nouveau, mais qu'aujourd'hui, il y a plus de gens qui se donnent confiance, qui se donnent ce challenge en tout cas de se dire, ben, il y a autre chose et je vais tester autre chose, et peut-être que ce autre chose pourra m'ouvrir d'autres portes.
Et quelles sont ces formations alternatives ?
Bah, t'en as plein. Bon, je veux parler de l'IT parce que c'est vrai que c'est un secteur que je connais bien parce que j'ai bossé dans ce secteur-là. Mais que ce soit à travers Bicode, que ce soit à travers Interface 3, que ce soit à travers des formations que Sephora propose, pas Sephora parce que pour les employés, mais Bruxelles Formation propose et d'autres. Plein de choses qui sont mises sur pied, pas qu'à Bruxelles d'ailleurs, dans plein de grandes villes, parce que c'est plus dans les villes, et même en ligne. Je veux dire, aujourd'hui, moi j'ai plein de personnes que je connais, des data analystes qui se sont formées sur Google, avec les certifications Google, certification Microsoft, certification Tableau, certification XYZ, et donc ça, c'est un petit budget, mais de nouveau, ça reste généralement aussi accessible.
Bon, c'est moins cher que des études universitaires.
C'est beaucoup moins cher. T'es sur des formations, enfin Google, je pense que t'es sur une centaine d'euros, 200 euros oui, max, enfin tu vois, alors qu'à l'UNIF, effectivement, t'es sur des 800 euros par an, donc je pense que tout ça, ça nous permet aujourd'hui de pouvoir regarder un petit peu autre chose et directement aller vers ces métiers avec certification qui de nouveau rassure l'entreprise aussi.
C'est ça. Et est-ce que selon toi aujourd'hui ces méthodes, ces nouvelles méthodologies sont assez reconnues dans le monde de l'emploi ?
Non. Bah, tu as commencé en disant justement qu'il y avait un manque de reconnaissance. Donc pour moi, non, il n'y a pas assez de reconnaissance. Parce que tu n'as pas justement une compréhension des compétences qui sont acquises. On a encore beaucoup trop axé sur les titres de métiers. Oui. Quel titre ? Et finalement, en fait, ces métiers sont tellement en train de changer. Moi, aujourd'hui, ma mère, elle est infirmière. Elle a commencé infirmière, il n'y avait pas d'ordinateur. Aujourd'hui, on lui demande d'encoder les patients dans un software. Elle m'a appelée, il y a un an de cela, en pleurs, en me disant, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne comprends rien. Et moi, je suis infirmière, tout ce que je veux, c'est aider les gens. Et on leur demande de changer complètement leur fusil, entre guillemets, d'épaule, en ayant de nouvelles compétences à leur arc. Sauf qu'en fin de compte, il n'y a pas non plus de formation qu'on leur propose, vu que les budgets sont limités. Et donc, tu te retrouves avec des personnes qui sont complètement en décalage, en fait, avec les nouvelles compétences. Donc, je pense qu'il y a justement, en fait, un focus qui doit complètement changer. C'est qu'on n'a plus besoin de se focaliser sur les métiers, parce que les métiers sont continuellement en train de changer. On va devoir se focaliser à 100% sur les compétences, et on ne le fait pas du tout, parce qu'on n'a pas assez de data que pour comprendre telle formation, qu'est-ce qu'elle permet de faire, et qu'est-ce que tu as comme compétence après, qu'est-ce que je peux devenir, check moi, dans ma grille de lecture ou dans ma grille d'analyse. Parce que de nouveau, beaucoup de boîtes de recrutement fonctionnent, beaucoup d'entreprises fonctionnent avec des scorecards, et donc si tu n'arrives pas à pouvoir cocher tes cases, tu n'es pas rassuré, et donc tu ne vas pas prendre le risque. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment vu comme étant un risque, et il faut arriver à changer un petit peu cette perception. On parle des filières alternatives en Belgique, parlons aussi des diplômes internationaux qui sont pas reconnus. Le nombre de talents qu'on a aujourd'hui qui ont des diplômes d'ingénieurs, des diplômes de software développeurs, des diplômes XYZ, de médecins, etc., d'avocats, et ils se retrouvent à être taximens, ils se retrouvent à être infirmiers, travailler dans les magasins, etc., parce qu'en fait, il faut pouvoir subvenir à leurs besoins déjà, il faut pouvoir manger, hein, payer un loyer, mais ça ne correspond pas du tout à leur diplôme. Quand tu vas, alors de nouveau, il n'y a pas de sous-métier. Mais je pense que quand t'as cravaché dans ton pays pour avoir un master ou devenir médecin, venir ici en Belgique et te retrouver à devoir faire la plonge parce qu'en fin de compte, on ne t'accepte pas pour tes compétences, je trouve ça très compliqué. Et surtout qu'on est en pénurie en fait, de ce type de compétences aujourd'hui en Belgique. Il faut trouver un moyen de pouvoir renouer un peu les liens avec ces compétences. Sinon, je pense qu'on va se tirer une balle dans le pied en Belgique.
Et donc, comment tu fais avec ce type de candidat en fait, quels sont tes conseils? Je vais dire plutôt pour les entreprises, c'est-à-dire que le but, c'est vraiment de donner une chance à tout le monde, ou alors tu penses quand même qu'il y a des métiers où il faut des équivalences, quoi.
Ouais.
C'est obligatoire, mais peut-être des équivalences plus courtes, ou peut-être une autre méthodologie.
De nouveau, je pense qu'il y a des métiers où, quand on parle d'ingénierie complexe, ou vraiment la médecine, bah oui, tu dois pouvoir t'assurer qu'il y a les compétences derrière. Maintenant, un software développeur, de nouveau, est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir un master? Non. Et il y a plein de tests qui existent. Moi, j'ai hâte de pouvoir avoir différents tests qu'on pourrait passer. Alors, tu en as qui vont te dire oui, c'est chouette, d'autres, c'est pas chouette. Tu as des tests qui sont collectifs, des tests individuels. Enfin, voilà, il y a plein de façons de tester, mais tu peux tester, en fait, les compétences de la personne. Et donc, je pense que déjà, donner une première chance, pas pour engager, mais déjà pour rencontrer la personne. C'est déjà, en fait, cette première étape qui, aujourd'hui, ne se passe pas. Si on pouvait faire en sorte que ce diplôme, ou en tout cas, ces diplômes alternatifs puissent passer la première étape et au moins rencontrer la personne pour avoir une discussion, comme tu le disais, je pense qu'on arriverait déjà à pouvoir avoir des meilleures réponses à nos questions. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Ok, du coup, comment on fait pour la suite? Comment tu l'imagines?
Comment je l'imagine? Comment est-ce qu'on le construit? On est activement, nous, en train d'essayer de le construire avec ce langage commun de compétences, avec un nouveau référentiel qui permettrait aux entreprises d'arriver à mieux comprendre les compétences dans les métiers, donc aider les recruteurs, aider les hiring managers et aider les talents et adopter un langage commun. Si finalement les talents et les entreprises parlent la même langue, je pense qu'il y aura de meilleures correspondances. Aujourd'hui, tu vois à Bruxelles, tu as 90 000 chercheurs d'emploi, tu as plus ou moins 80 000 offres d'emploi ouvertes. Je ne dis pas qu'il y a un match à 100%, mais je ne dis pas qu'il y a un match à 0% non plus. Enfin, ce n'est pas possible. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour venir justement faire en sorte qu'on comprenne les compétences minimales nécessaires pour certains métiers, les métiers en pénurie où tu as quand même pas mal de personnes aujourd'hui qui pourraient rapidement se reconvertir, rapidement shifter, et des métiers qui demandent principalement aussi des compétences humaines. Enfin, de nouveau, moi, des fois, je rentre en entreprise, je suis assez outrée quand je vois que pour un sales, un représentatif au niveau sales, il faut avoir un master en X, Y ou Z, quoi. In fine, t'as appris où à savoir négocier, à savoir sortir un peu ton épargne du jeu,
sûrement pas à l'école, à mon avis.
Pas à l'école. Donc je pense qu'il y a justement cette compréhension-là. Il faut venir challenger son entreprise dans les compétences qu'elle demande par rapport à certains métiers, quoi. Et c'est un travail que nous, on fait, mais qui n'est pas facile, parce qu'il faut vraiment venir déconstruire les approches, déconstruire en fait ces idées reçues qu'on a depuis tellement longtemps et venir implémenter de nouvelles graines, de nouvelles idées qui vont faire germer, en fait, je pense, la personne dans son rôle de manager, mais aussi l'entreprise, les équipes, etc.
Génial. L'importance de la prise de conscience sur l'importance des compétences. Et là, qu'est-ce que je peux te souhaiter, moi, pour la suite?
De l'argent. Parce que pour continuer de
développer... Je t'en souhaite plein.
Merci.
Que ça tombe du ciel.
Au-delà de ça, l'argent, c'est clair que pour continuer à se développer, mon application n'est pas terminée. Donc, moi, ce que j'ai envie, c'est de pouvoir la diffuser de manière nationale et internationale. C'est la faire en néerlandais, parce qu'elle est en français et en anglais. Donc, je vais pouvoir amener beaucoup plus de langues aussi, développer de nouvelles fonctionnalités. Donc, il y a plein de choses qu'on doit faire et pour ça, il faut avoir de l'argent. Mais tu peux en tout cas souhaiter à la Belgique, je pense, et me souhaiter, parce que je suis belge et que je suis basée encore ici, mais souhaiter à la Belgique de mieux soutenir l'entrepreneuriat. Parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on parle innovation, quand on parle entrepreneuriat, on le voit, on l'a encore vu il n'y a pas très longtemps, je trouve qu'on ne prend pas la bonne direction et qu'on n'est pas une start-up nation. Ça devient compliqué, en tout cas pour les petites boîtes comme nous, de continuer à faire la différence et de continuer à se dire en fait qu'on a de l'impact et qu'on soutient l'impact qu'on fait. Parce que je pense vraiment que c'est les petites boîtes aujourd'hui qui ont l'impact quotidien sur le terrain. Donc tu peux me souhaiter moi en tant que Belge d'avoir un État qui ouvre un peu les yeux et qui voit l'importance en fait des PME et l'innovation dans la relance économique.
Eh bien, c'est tout ce que je nous souhaite à toutes les deux, en tout cas Leïla. Un tout grand merci pour le partage de ton expérience, pour aussi tout ton ressenti du terrain que je partage, avec lequel je m'aligne totalement. Et à tous nos auditeurs, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir Leïla.
Merci Stéphanie.
Ciao.
Merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, en partageant notre contenu et en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pensez aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux afin de vous tenir au courant des dernières actualités du Mouton à 5 pattes. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode.